vous commenter un message qui va être en deux parties. Et je ne vais pas être très long. Parce que si on est trop long, c'est une remarque qui nous a été rapportée, déclinée, vous auriez tendance à dormir. Alors, on va faire tout en sorte pour que vous ne dormiez pas. D'accord? Donc, pour maintenir votre esprit, et je compte sur le cœur d'enfant que vous êtes pour être attentif jusqu'au bout, d'autant que je ne serai pas long. On aura deux parties. Deux parties qui sont comme des trésors qui vont vous être offerts, qui vont vous être donnés. Alors, quand on parle de trésors, on pense immédiatement à des présents. Et donc, je pense que vous me voyez venir. Je suis dans la continuité de ce qui a été annoncé précédemment sur le message de Noël. Et je vais vous parler des mages. Alors, pas de rois mages, parce que les rois mages, ça n'existe pas, mais des mages. Et c'est une très, très, très belle histoire qui nous est relatée. Je ne vais pas tout vous dire, mais en deux parties. Alors, je vais commencer par vous relater le texte de Matthieu, Matthieu chapitre 2. Donc, je vous invite à lire votre Bible et fuyez autant que possible les tablettes numériques. Regardez la Bible en papier, parce qu'on rentre dans un monde virtuel, mais il faut toucher ce qui est de l'ordre du papier. Amen. Ou bien vous écoutez. Et je vais vous lire cette histoire, vous narrer cette histoire absolument magnifique et édifiante. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète Michée. Alors je vais commencer l'histoire et puis je vais la commenter et je vais compter sur vous, pas encore. On va attendre l'énoncé de ce message. Comme beaucoup ici le savent, l'avènement lié à la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, a été annoncé dès les premiers livres de la Bible. En fait, quand on lit les Écritures, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, toute la parole parle de Jésus. Toute la parole, toutes les Écritures parlent de Jésus. Et c'est assez extraordinaire de savoir que finalement, la naissance de Jésus, elle a été explicitement annoncée depuis la nuit des temps. L'avènement, comme la naissance explicitement, la naissance de Jésus. Donc cette naissance a été prédite par de nombreux prophètes, notamment dans le livre de Jérémie, Jérémie 23, 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, je susciterai donc de la filiation de David un germe juste. Il régnera en roi, prospérera, il pratiquera la justice, et l'équité. Il sera un homme juste dans le pays. » Et puis Michée, que cite l'évangéliste Matthieu, Michée qui déclara 7 siècles avant, dans ce livre prophétique, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Magnifique. Citons également le prophète Ésaïe, ce texte que nous avons tous mémoré. Oui, un enfant nous est né. C'est l'autre texte qui prédit l'avènement et la naissance de Jésus. Un fils nous a été donné. sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Et tous les attributs qui caractérisent la venue de Jésus, la personne de Jésus, sont décrits dans ce texte. Conseiller merveilleux, Dieu fort. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fort. Père à jamais, nous est-il dit, Père à jamais. Prince de paix, Prince de la paix. L'avènement miraculeux de la naissance de Jésus a été accompagné également de signes surnaturels. Parce que c'est tout l'univers qui a été concerné. C'est un événement céleste. Toute la création, quelque part, a été concernée par cet avènement. Il y a un magnifique chant qui a été entonné précédemment, où il unit le ciel et la terre. Mais c'est magnifique de le comprendre spirituellement. La naissance de Jésus va unir le ciel et la terre. Extraordinaire, c'est un événement surnaturel. Alors ce signe surnaturel, cet événement miraculeux concernant la naissance de Jésus, interpelle des mages qui vivaient en Orient. Et rappelons ceci, le nom de mage est donné par les Babyloniens, Médès, Perses, Chaldéens et autres hommes sages. En fait, les mages dans la Bible, dans les Écritures, ce sont des voyants, des prophètes, des prêtres, des médecins, des astrologues, des lecteurs de rêves qui interprètent les rêves. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, il nous est commenté l'arrivée des mages. Hein, il y a des mages qui sont là pour interpréter des signes, sauf que ceux-là sont des bouffons. Ils ne sont pas capables de lire et d'interpréter les signes, et c'est Daniel qui va interpréter les rêves. Mais il existe à Médès, en Perse, toute une école de mages. Donc il y a une continuité dans le temps. Cela était certainement beaucoup plus intelligent, puisqu'il savait discerner les signes dans le ciel, et il savait même lire la Bible. Alors, ces visiteurs d'Orient, qui venaient sans doute de Perse, savaient en effet discerner les signes dans le ciel et avaient perçu quelque chose de remarquable, d'inhabituel, de surnaturel. Un événement qui se produisit dans le ciel, dans cet univers qu'ils avaient probablement longtemps observé. Ils avaient observé pendant longtemps, ils ont scruté le ciel. Il faut que tu fasses un plan large parce que ceux qui sont sur Zoom ne voient pas ce qui se passe. Voilà, et montre ce qui se passe. Voilà, tu diriges la caméra. Voilà, ils vont scruter le ciel. Ils vont observer, ils vont regarder. Voilà, il y a Balthazar, il y a... Alors, ils sont en train de scruter le ciel. Alors, ils sont en train de lire même dans tout l'univers, là, pour regarder où se trouve le ciel, vous voyez. Mais on va remontrer l'image, les étoiles. On va remontrer ces fameuses étoiles. Mais il n'y a rien qui bouge dans le ciel. Tout est stable. Les étoiles sont à leur place. Les étoiles sont à leur place. Et tout d'un coup, alors ils vont consulter un autre confrère, un autre mage, et puis ils vont lui dire... Mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Tout est normal. Il n'y a pas d'événement particulier dans le ciel. Et puis tout d'un coup, surgit dans le ciel une étoile étincelante. Waouh ! Waouh ! Magnifique ! Et on applaudit, là, les enfants. Réjouissez-vous ! Son avènement ! Une seule étoile n'est pas à sa place. Et en plus, elle bouge, cette étoile. Elle bouge. Ben, vous ne la voyez pas bouger, parce que vous avez pas... Si vous avez un cœur d'enfant, vous la voyez bouger. Elle bouge. Elle n'est pas stable dans le ciel. Merci, Gaspard, Balthazar. Et voilà cette manifestation intrigante, surnaturelle. C'est bien un avènement qui unit le ciel et la terre. Une étoile est apparue en Orient, en Perse ou dans le sud de l'Arabie, soit dans le royaume de Parthe ou soit dans le royaume perse, peu importe, cela n'est pas précisé dans l'évangile de Matthieu qui est extrêmement sobre. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va être dit par ces mages. Ils disent « son étoile ». C'est ça qui est extraordinaire. Écoutez bien, c'est « son étoile ». Ce n'est pas une étoile, c'est « son étoile ». Ça, c'est saisissant, son étoile. Une étoile céleste qui défie l'entendement, les scientifiques. Personne ne peut expliquer ce type de phénomène. Il n'y a pas là à être rationnel, il faut être des enfants. C'est son étoile. Dieu fait émerger dans tout l'univers, il fait émerger une étoile. Une étoile. Et ils sont touchés, ces mages. Parce que c'est divin. Parce qu'eux ont compris que là, ce phénomène est annonciateur de l'avènement du roi des rois, du seigneur des seigneurs, celui qui est venu dans le monde pour sauver son peuple. Le texte de Matthieu ne nous dit rien à propos de ces mages, parce que ce texte est d'une immense sobriété. Et on ne sait même pas quel est le nombre. Alors on dit ils sont trois et on a donné des noms, ça c'est la légende. En réalité, on ne sait pas combien ils sont venus. Peut-être étaient-ils une dizaine. On n'en sait rien. On parle de mages. Cela veut dire, pour nous, en d'autres termes, savoir lire les signes. Comme Jésus nous a recommandé de savoir lire les signes de la fin des temps. Car il revient. Car Jésus revient. Oh ! Réveillez-vous comme cela nous a été dit. Réveillons-nous, car il revient. Son avènement est proche. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être des enfants et à croire en sa parole, de cesser de raisonner. Comme ces mages savaient lire, ils avaient probablement eux aussi un cœur d'enfant pour ne pas s'étonner de cet événement et savoir lire ce que Dieu leur indiquait. Il me semble que ces mages connaissaient les Écritures. En raison de la présence de Juifs en Orient, à Babylone, ils étaient nombreux, et d'ailleurs tout le monde n'est pas revenu à Jérusalem pour rebâtir les murs de Jérusalem. Le livre de Ruth nous relate qu'un grand nombre était resté. Donc, il existe une influence du judaïsme en Orient qui est extrêmement forte. Ces mages juifs, ou non, on ne le sait pas, rien ne nous est dit, n'ignoraient rien des Écritures. Ces mages savaient ce qui était rapporté de ce roi Messie. Où est né le roi des Juifs ? Ce roi qui devait naître en Israël, dans ce village de Bethléem, ce village qui est appelé la maison du pain. Donc il n'y a rien de hasardeux. La maison du pain, il ne faut rien inventer, hein, c'est là où est né Jésus, lui qui est le pain de vie. Ce qui nous laisse supposer que ces mages connaissent en partie les Écritures. Pas totalement, puisqu'ils vont à Jérusalem. Et en arrivant à Jérusalem, ils vont s'enquérir du lieu de naissance de Jésus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Cette demande de ces visiteurs va troubler un certain roi. Et qui est ce roi qui va être très troublé ? Le roi Hérode. Le roi Hérode. Pourquoi est-il troublé ? Parce qu'il n'est justement pas de la lignée du trône de David. C'est un usurpateur. Il est là instauré comme roi parce qu'il est complice de l'Empire romain. Ça le trouble que le roi des Juifs soit né. Et pas seulement, je dirais, Hérode qui est troublé, c'est la totalité de la ville de Jérusalem, mais peut-être pour d'autres raisons, parce qu'eux attendent aussi, le peuple attend l'avènement du Messie, l'avènement du roi des rois. La peur d'Hérode est mêlée à la crainte, notamment de découvrir ce qui est dit dans les Écritures à propos de ce Jésus qui va naître, de ce roi des Juifs qui va naître. Le roi Hérode n'avait donc aucune légitimité. Il était perturbé, comme le rapporte l'évangile de Matthieu. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs, tous ceux qui savaient lire les Écritures, les scribes du peuple. Il les consulta. Et leur demande de fouiller, de scruter les Écritures. Où est la naissance, où se trouve la naissance, le lieu de naissance de ce roi des rois? Et tous se sont mis à lire assidûment les prophètes, car eux aussi sans doute attendaient le Messie. Revenons à ce texte de l'évangile de Matthieu et poursuivons la lecture de ces versets qui sont au cœur de cette prédication que je vous partage. Le cœur de cette prédication autour des présents, ce que j'aborderai et déclinerai dans une deuxième partie la semaine prochaine. Donc je vais bientôt terminer. Restez attentifs. De ces présents qui ont été offerts au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Parce qu'en fait, ces présents, ces cadeaux vont être un acte prophétique. Un acte prophétique absolument extraordinaire. Quand ils se sont empressés de partir du pays d'Orient pour venir jusqu'à Jérusalem, ils ont embarqué avec eux des présents, des cadeaux. Alors c'est bientôt le 25 décembre, je sais que certains ont, pour leurs enfants, ont mis déjà des cadeaux. Mais d'où vient peut-être cette tradition? Mais je trouve juste extraordinaire ces trois présents qui vont être offerts. Trois présents d'une coloration absolument extraordinaire. Lisons les versets de Matthieu, les mages partir. Véran, les mages partir. Voilà. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Une étoile en mouvement, une étoile qui s'arrête, en mouvement pour les guider, pour les conduire, et une étoile qui s'arrête. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Amen. Est-ce que nous sommes saisis d'une grande joie personnellement? Ouais. Amen. Ils rentrèrent dans la maison. Donc, ils ne rentrèrent pas dans une étable. Hein. Ils rentrèrent dans la maison. Tout d'un coup, boum, les images d'Épinal sont en train de tomber. Mais oui, ils rentrèrent dans une maison. Et ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils se prosternèrent. Ils adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Et on les voit ici figurés, l'or, l'encens et la myrrhe. Eh bien, ces offrandes, ces présents m'ont particulièrement bouleversé, touché. Et ce verset, ce court verset, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, a ému mon cœur. Et une véritable émotion a envahi tout mon cœur. Et je veux vous partager la parole de Dieu comme un cadeau. La parole de Dieu est un cadeau pour nous. Parce que les mages vont accomplir un geste spirituel extrêmement puissant, bouleversant. Un geste prophétique, comme je l'ai dit précédemment. Un geste qui nous annonce à travers l'or la royauté de Jésus, au-delà d'Israël, la royauté de Jésus au-delà d'Israël. Je commenterai davantage parce qu'il y a énormément d'aspects à développer et à décliner autour de l'or. On retrouve des passages sur ce matériau précieux dans le livre de l'Apocalypse. J'y reviendrai dimanche prochain sur ce point. Et puis, il y a l'encens, le souverain sacrificateur dont le sacrifice de sa vie devait être la rançon de plusieurs. L'encens est un matériau que l'on brûle et qui dégage une odeur, mais il est conçu d'une certaine façon. Et on retrouve cet élément de l'encens dans le texte de Deutéronome. Je détaillerai pour dimanche prochain parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans la parole qui sont extrêmement édifiants. Et puis le troisième, qui est la plante à myrrhe, la myrrhe, qui nous dit que celui qui est venu dans le monde est venu prendre soin de chacun d'entre nous, qu'il guérira les cœurs brisés. Et la myrrhe vient cicatriser, vient cautériser, vient soigner, vient embaumer, c'est même utilisé, ça a été utilisé lorsque Jésus a été mis au tombeau et que Nicodème est venu avec de l'aloès, 30 kilos d'aloès et de myrrhe, pour embaumer le corps de Jésus afin d'éviter la putrification de son corps. Donc la myrrhe a une propriété tout à fait particulière de conservation et on verra la richesse de ce symbole dimanche prochain. Les mages qui accomplissent à travers leur offrande le geste révèle le plan de notre Père. Dans ces trois gestes, l'or, l'encens, la myrrhe, Dieu, au travers de ses mages, est en train de nous révéler le plan de son salut. Ce geste est un geste extraordinaire. Dieu, au travers de ses trois présents, nous dit « Je viens ici sauver l'humanité. Je viens sauver chacun et chacune d'entre vous. » Je ne sais pas si les mages avaient connaissance de la portée de leurs gestes, mais Dieu se sert parfois de ce que nous ne savons pas. Tu te mets à parler à un frère ou à une sœur, et puis tu lui donnes une parole qui s'avérera être une parole prophétique, mais tu ne sais même pas que cette parole a une telle portée. Moi, j'aime quand on est saisi par l'Esprit Saint et quand on révèle par une parole de connaissance quelque chose dont on ne connaît pas la portée, mais qui va avoir un effet extraordinaire et un impact extraordinaire sur la vie. Eh bien, ces trois gestes, l'or, l'encens et la myrrhe, vont avoir une portée prophétique. Et une portée prophétique pour chacun d'entre nous. Pour conclure cette première partie, vous voyez, je ne suis pas trop long, je tiens mes engagements. Le verset qui, pour moi, illustre Noël est ce texte de Hébreux, chapitre 9, verset 28. Alors, je ne sais pas si on l'a, ce texte. Si Christ reçut de la part des mages, oui, lui, Jésus, le Seigneur Jésus, il s'est offert. Le plus beau cadeau que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est Jésus. Moi, je n'ai rien à vous offrir, je n'ai pas de cadeau à vous offrir, mais j'ai Jésus à vous offrir. J'ai le Seigneur Jésus à vous offrir. C'est le plus beau présent qui nous est donné. Le Seigneur Jésus. Lui s'est offert. C'est lui qui s'est offert. Et le Seigneur n'a pas d'autre chose à nous offrir que sa vie pour nous. C'est là le message de Noël. Il s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra, il réapparaîtra sans péché une nouvelle fois pour ceux qui l'attendent. Et qui l'attendent pour leur salut. Alors mon souci aujourd'hui est de savoir si tu as donné ton cœur à Jésus. Mon souci est de savoir si tu as fait la paix avec Jésus. Au fond, on peut se dire, ouais, ok, tu prêches à des chrétiens, ils sont tous chrétiens, ils ont tous leur relation avec Dieu, oui. Mais je pense que nous tous, nous pouvons nous reposer cette question. Est-ce que j'ai fait la paix avec Jésus dans mon cœur? S'il revient là, aujourd'hui, et je pense que dans les temps qui vont venir, c'est à une vitesse que se décline l'histoire. Personne n'avait imaginé ce que serait 2020. L'année 2020 s'achève. Qu'est-ce que sera l'année 2021? Certains rigolards au 1er janvier avaient dit ou avaient indiqué 20 sur 20, ça sera une année parfaite. Ce n'est pas une année parfaite. D'autant que je n'aurai pas la joie de voir mon papa, ni mes frères et sœurs, belles-sœurs. Je n'ai pas de sœurs, mais des belles-sœurs. Et je dis, c'est triste. C'est triste. C'est très triste. L'année 2020 est une année catastrophique. Mais j'ai une joie à vous dire, la joie de vous partager. Que Jésus, votre Seigneur, sait le temps que nous vivons. Et ce qu'il nous demande, c'est d'être attachés à lui parce que lui est le véritable présent, le véritable cadeau qui nous a été offert, qui nous a été donné. Prenez ce cadeau. Prenez ce présent. Parce qu'il fait sens. Beaucoup de gens se disent, mais quel est le sens de l'existence, de la vie? Il y a des gens qui ont idolâtré la vie et qui sont en train d'idolâtrer la vie en perdant le sens de la vie. Et le sens de la vie, c'est le sacrifice de Jésus. Lui, Jésus, n'a pas eu peur de donner sa vie, de perdre sa vie. Celui qui perdra sa vie, la gagnera. Est-ce que nous sommes capables d'entendre, dans ce 21e siècle, en 2020, que celui qui perdra sa vie, la gagnera en réalité? Jésus veut t'offrir sa vie. Afin que toi, à ton tour, tu offres ta vie pour le monde dans lequel tu es. Vous allez me dire, c'est facile à dire, pas facile à faire. Je suis d'accord avec vous. Mais donner sa vie, c'est dans le quotidien. Et j'ai envie de dire au couple, et je le répète, au couple, chérissez-vous l'un et l'autre, aimez-vous l'un et l'autre, que les maris aiment leur femme, chérissent leur femme, prennent soin de leur femme. Et si vous n'êtes pas marié, prenez soin de votre prochain. Et comme le couple doit prendre aussi soin de son prochain, le message du 21e siècle pour nous, c'est offrez vos vies. Aimez votre prochain. Amen. Voilà le plus beau message de Noël. Attendez la suite. Ce sera dimanche prochain, je ne serai pas long. Je termine. Attendez la suite, vous verrez que vous en pleurerez de joie. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Amen. Pour les beaux cadeaux que Jésus va vous offrir, parce qu'il a de vraiment de beaux cadeaux et de belles promesses pour chacun d'entre vous. Votre vie n'est pas terminée, votre vie n'est pas achevée. Et le Seigneur vous fait la promesse de poursuivre cette vie avec vous et de vous donner toute sa grâce. Amen. Amen. Que Jésus vous bénisse. Amen.